toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la rédaction de Game Info. Je suis Mordren et ceci est notre épisode 372. Je suis en compagnie de Tyran. Salut Tyran.
Il pleut, bergère.
Voilà. Nous sommes privés d'ATH en ce moment, on lui fait des gros bisous. Il a besoin de repos, donc voilà, envoyez-lui de la force.
Rassurez-vous, ça va, c'est juste que, ordre du médecin, monsieur doit se reposer, donc il se repose.
Voilà. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Au sommaire de l'actualité, cette semaine, vous savez qu'on va parler de jeux vidéo, évidemment, mais de pas mal de choses, notamment de ta déception de la semaine. Parce que tu t'es dit que t'allais jouer à un jeu un petit peu sympa, et puis au final, il était peut-être pas si sympa que ça. Ensuite, on parlera du mode Super Mario 64 Plus de Time Splitters 2 dans un portage PC, et oui, d'un remake d'Alex Kidd in Miracle World, de Diablo 2 Resurrected, de Outriders, visiblement, on a décidé de parler de la sensation du moment, de Deathloop, d'Age of Empires 4, de The Day Before, mais aussi un petit peu de choses dans l'industrie, notamment de l'Epic Game Store qui perd de l'argent, mais aussi de Sony, qui fait des choses pas forcément très agréables à ses développeurs, outre d'ailleurs que Sony Japan, donc on en parle. Et puis évidemment, de la longue enquête fleuve de Game Cult et de Libération sur la culture du crunch dans les écoles de jeux vidéo. Mais je voulais du coup te passer un petit peu la parole, mon cher Tyran. Ta déception de la semaine, c'est un jeu qui s'appelle Cozy Grove. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu et pourquoi c'est ta déception de la semaine?
Alors déjà, Cozy Grove, bah, c'est simple, c'est Animal Crossing, voilà.
D'accord.
C'est Animal Crossing sur PC, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi une version mobile. Le jeu, il n'est pas sorti en exclusivité sur PC. Hein. Il est sorti sur à peu près tout ce qui existe en termes de plateforme. Moi, je m'étais dit, naïvement, bon, ils le sortent sur PC. Du coup, ils ont probablement pris en compte le fait que on n'est pas sur une plateforme mobile. Donc, notre PC, si tu veux, on peut pas le sortir dépoter dans le métro ou n'importe où quand on a 5-10 minutes pour jouer et ranger le device et puis on a joué nos 5-10 minutes, on est content. Tu vois. C'est pas un jeu qui se prête, enfin c'est pas un support qui se prête à des sessions de jeu courtes, on va dire.
Mais
donc du coup, moi je m'attendais à quelque chose bon certes avec un système de jour-nuit, d'event, etc. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils appliquent à la lettre la recette Animal Crossing, notamment sur un point, qui est le fait que tu ne peux faire qu'un certain nombre d'activités par jour. C'est-à-dire que je vous rappelle, dans Animal Crossing, vous allez voir les habitants, ils vous donnent des tâches, et puis au bout d'un moment, t'as épuisé ce que t'avais à faire avec les habitants, et après, si t'as que ça à foutre, tu peux t'occuper des tâches ingrates, genre ramasser des merdes et ce genre de choses, quoi. Voilà. Je dis ça comme ça parce que vous me connaissez, hein, je n'apprécie pas trop ce type de gameplay. Moi, ce qui m'intéressait dans ce jeu, justement, c'était le côté j'interagis avec des esprits, parce que c'est ça l'originalité du jeu, c'est-à-dire que tu joues un espèce de scout, si tu veux, qui débarque sur une île. Et l'objectif de ce scout, c'est d'aider les morts à passer dans l'au-delà. Et du coup, tu vas aller discuter avec les habitants de l'île. Et plus tu vas interagir avec eux, en fait, plus ils vont s'ancrer dans la réalité. Et plus l'île qui, au départ, tu sais, c'est tout gris, les plantes, elles ont pas de couleur, etc., plus l'île va devenir colorée et plus il va y avoir d'éléments affichés dans le décor, etc., en fait. Plus tu vas tisser des liens avec les habitants, etc. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment pas l'aspect « vas-y, je vais ramasser 4000 merdes sur la plage, hein, et avec ça, je vais pouvoir augmenter la taille du shop ». Bah ça, franchement, pour moi, c'est le... Je suis désolé, vous me connaissez, pour moi, ça, c'est le degré zéro du gameplay, hein, en ce qui me concerne. Donc ça m'intéresse pas, en tout cas. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est ce côté interaction. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'au bout de 30 minutes, enfin, allez, 45, parce que j'ai pris mon temps pour lire, etc., au bout de 45 minutes, en prenant vraiment mon temps, bah, j'avais épuisé toutes les quêtes du jour, et j'ai découvert que, bah oui, bah, c'était exactement comme Animal Crossing, c'est-à-dire que si je voulais voir la suite, il fallait que j'attende le lendemain. Et quand dis le lendemain, c'est pas genre à minuit, hein, c'est à 5h du matin, en fait, le reset.
D'accord.
Donc tu peux même pas te dire, tu vois, je vais jouer à partir de 23h et je vais arrêter à 1h du matin. Ouais, tu vois. Non, 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 ils ont décidé, pour être bien sûr, tu vois, que tu reviendrais tous les jours en journée, ils ont mis ça à 5h du mat, quoi.
Ouais.
Bah, moi, je suis désolé, j'ai pas que ça à faire, quoi. Enfin, comment dire ça de manière sympa, mais... Moi, mon problème, si tu veux, c'est que... En général, quand je joue à un jeu, c'est... Sauf si vraiment c'est un jeu extraordinaire et que je pense qu'à ça toute la journée et que j'ai qu'une envie, c'est d'y jouer, je vais jouer une fois par semaine, quoi, tu vois, le week-end, quoi.
Oui, oui, d'accord.
Et un jeu qui me dit, bah désolé, tu m'intéresses pas, si tu joues une fois par semaine, tu vas avancer comme un escargot parce que, il se trouve qu'on a limité le contenu accessible par jour, bah je suis désolé, allez vous faire voir, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est que là, pour le coup, le jeu t'impose une connexion quotidienne et en plus un temps de jeu quotidien limité à peu près une demi-heure. Et du coup, c'est compliqué, surtout pour le genre de joueur qu'on est nous. C'est souvent on fait des sessions de jeu un peu longues, quoi. Donc du coup, forcément, tu te sens un peu bridé de pouvoir y jouer entre guillemets que une demi-heure chaque jour, quoi. Ouais, je comprends.
Alors, Scablast dans le chat qui demande, c'est pas tout à fait exactement la même chose que Spiritfarer, dans le sens où Cozy Grove, c'est vraiment un jeu en vue isométrique, Spiritfarer, c'est un jeu en vue côté, et surtout, Spiritfarer, t'as pas tout cet aspect posé, en fait. Enfin, si, il y a quand même un aspect posé, c'est vrai, dans Spiritfarer, mais comment expliquer ça T'es quand même enfermé sur une île, t'as pas le bateau, etc., où tu vas aller visiter différentes îles, etc. Il y a quand même un petit côté exploration, tu vois, dans Spiritfarer. Alors que dans Cozy Grove, certes, tu vas agrandir l'île au fur et à mesure, tu vas découvrir des nouvelles choses, mais c'est quand même pas aussi plaisant en termes de découverte, je trouve. En tout cas, pour le peu que j'ai joué des deux jeux, parce que pour le coup, justement, ça c'est une chose que je voulais dire, en ayant eu un jeu qui m'a dit « va te faire foutre si tu m'intéresses pas », bah du coup, j'ai relancé Spiritfarer que j'avais depuis un bail dans ma bibliothèque et qui, c'est vrai, propose en termes de thématique, le côté « j'accompagne les esprits vers la mort », etc., quelque chose qui est assez similaire et qui m'intéresse aussi, effectivement.
Ouais, complètement.
Donc, pour le coup, j'ai bien fait de le garder de côté parce que du coup, je l'ai lancé maintenant, quoi. Voilà.
Ouais. Puis Spiritfarer, en plus, il me semble qu'il y a un peu plus de gameplay que la simple collecte qu'on propose dans un Cozy Grove ou un Animal Crossing Lake, ce qui n'est pas forcément le cas de Cozy Grove.
Et t'as quand même un petit côté zen, notamment pendant les voyages, etc. Donc, je me suis dit, tiens, écoute, j'avais besoin... parce que, pour le coup, une des raisons qui fait que j'ai lancé Cozy Grove, c'est le fait que moi, j'aime les jeux un peu... Enfin, en ce moment, un jeu zen, tu vois, ça me dit quelque chose. Et Spiritfarer, je trouve qu'il s'y prête plutôt bien. Ah non, juste pour terminer, je trouve que... Alors, il y a quand même des arguments fallacieux qui sont présentés par les fans du jeu. Après, les développeurs, ils sont libres de faire ce qu'ils vont, hein, c'est pas le sujet. Moi, j'ai juste posté un message sur le forum de Steam pour dire, écoutez, moi, j'ai arrêté de jouer au jeu pour ça. Voilà, point. Après, j'ai pas dit, attention, hein, machin, j'ai pas insulté les développeurs, du tout. J'ai juste dit poliment, écoutez, si vous voulez savoir pourquoi moi, je me fais rembourser, parce que je me suis fait rembourser le jeu, pour le coup. Hein. Je me suis fait rembourser pour ça, peut-être que l'info sera utile, tu vois. Et les fans sont là en mode oui, mais nous on est content qu'il y ait un jeu de ce type sur notre support. En plus, ça permet d'avoir un truc rituel où tu reviens tous les jours, où t'as des événements saisonniers. Alors, déjà, je suis désolé, mais les événements saisonniers, tu peux parfaitement en faire sans bloquer le contenu. Tu vois, et puis surtout, le truc, c'est que quand tu décides de faire une mécanique comme ça, où tu bloques les gens en les empêchant de jouer tous les jours, autant le mec, tu sais, qui veut venir picorer un peu tous les jours, il peut toujours le faire, tu vois. Autant le mec qui n'a juste pas le temps, en fait, c'est ça le problème, quoi. Il peut pas. Et l'argument de dire, parce que en gros, l'argument des développeurs, c'est de dire nous, attention, on n'a pas fait ça parce qu'on a fait un jeu mobile, on a fait ça parce que nous, on voulait créer un jeu où c'est un rituel, tu sais, de te connecter tous les jours, etc. Mais les gens réalisaient bien que y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont une vie où ils n'ont pas le temps de jouer tous les jours. Et ce que vous faites, c'est, vous dites juste à ces gens-là, vous ne nous intéressez pas. Voilà.
Ouais. Ok, très bien. Si vous faites partie si vous reconnaissez dans le fait que vous faites beaucoup des sessions longues, mais pas forcément quotidiennes sur un même jeu, peut-être que passez peut-être un petit peu votre tour sur Cozy Grove et passez peut-être plus tôt sur Spiritfarer, si vous aimez en tout cas la thématique. Passons à la suite avec Super Mario 64. Alors vous le savez, Super Mario 64, on en fait ce qu'on veut maintenant hein, sur PC. Et la preuve, avec notamment ce mode pour Super Mario 64 PC qui s'appelle Super Mario 64 Plus. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans en fait ? Qu'est-ce qu'il y a de plus finalement dans ce mode qu'on n'avait pas déjà sur le portage PC de Super Mario 64 ?
Oui, parce que pour ceux qui auraient raté un épisode, hein, y a des gens qui ont fait du reverse engineering sur Super Mario 64 et ils ont porté sur PC. Voilà.
Ouais.
ce mode, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il fait pas mal de choses en réalité. Alors, il y a certaines choses comme le 60 FPS qui était déjà présente dans des modes à part, mais du coup, là, c'est présent dans le package, on va dire.
Okay.
Ce qui fait très intéressant, par contre, c'est que il améliore la caméra et les contrôles du jeu.
Ouais.
Bon point.
Oui.
Aussi, parce que certes c'était gérable au stick analogique la caméra, mais tu sentais que elle était pas faite pour ça à la base quoi. Du coup, il a retravaillé la caméra pour que ça soit bien géré au stick analogique. Ils ont rajouté plein de nouveaux mouvements à Mario. Hein. Donc si vous avez joué au Mario récent, je pense que vous verrez certains mouvements qui vous seront assez familiers. Notamment, il y a un moment, il y a un moment, je trouve que c'est marrant. Tu sais, il fait un peu du Smurf avec Mario.
Ouais.
Dans le sable, etc. Enfin, il y a vraiment une palette de moments qui est assez intéressante. Et en plus, ils ont rajouté plein d'options de jeu. Notamment, alors, il y a aussi une option pour permettre que, tu sais, une fois que tu as battu un boss, tu sois pas éjecté de facto du niveau, en fait, que tu puisses rester dans le niveau une fois que tu as battu un boss. Et il y a plein d'options de jeu comme ça. Qu'ils ont rajouté avec un mode difficile, un mode challenge, etc. Enfin, ils ont vraiment rajouté
un
plein de
contenus. Un mode permadeath aussi.
Voilà. Si vous êtes masochiste, effectivement, ça peut être une idée. Ou même, à l'inverse, parce que c'est pas un mode que pour les hardcore, un mode vie infinie. Si ça te casse les couilles d'avoir un nombre de vies limité dans Mario, enfin là pour le coup il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire si toi t'as envie de jouer à Mario Pépère mode vie infinie, si t'as envie d'être un gros hardcore, ben mode tu crèves, tu recommences quoi. Donc franchement, écoute, moi j'apprécie l'initiative. On vous mettra le lien vers le tuto, on va dire, pour créer compiler, on va dire, le jeu, parce que le jeu, il est pas, si tu veux, disponible comme ça, il faut le compiler et tout, et il y a des tutos pour expliquer comment on fait, etc. Alors, je ne doute pas que vous puissiez trouver sur BitTorrent des versions déjà pré-compilées, mais comme tu sais jamais ce que tu récupères sur BitTorrent, autant suivre le tuto. Et tout ce dont tu as besoin, a priori, c'est d'une ROM de Super Mario 64 pour extraire les assets du jeu. Et derrière, rouler jeunesse, quoi. Donc, Super Mario 64 continue de devenir un encore plus meilleur jeu que ce qu'il était à la base. C'est-à-dire un jeu légendaire. Donc, on prend.
Stylé. Scam dans le chat qui demande si les étoiles ont changé d'emplacement. Je crois que c'est pas le but de ce genre de mode.
Je ne doute pas qu'il y ait des modes qui vont le faire.
Donc, ouais, clairement.
Je vous mettrai peut-être, si je le retrouve aussi, un lien vers le forum que j'avais repéré où il sortait des mods, etc. pour Super Mario 64 PC. Ça peut valoir le coup de surveiller parce que, de toute façon, c'est toujours là-bas qu'on repère ces choses-là. Donc, voilà.
Ouais. Puis la scène, de toute façon, est méga active hein, sur le modding de Super Mario 64 PC. Donc, il serait, on va dire, surprenant de voir que ça s'arrête. Très clairement, j'ai l'impression que ça s'accélère plus qu'autre chose, donc c'est plutôt cool de voir en tout cas tout l'amour de la scène modding sur ce jeu, et c'est évidemment tout à fait mérité. Passons à la suite avec une news easter egg, une fois n'est pas coutume. Easter egg dans Homefront The Revolution, puisque on peut trouver un portage PC HD de Time Splitters 2 via Homefront The Revolution.
Alors, Homefront,
j'ai envie de te dire
Camoulox. Je rappelle quand même ce jeu fabuleux dont Pixel nous avait parlé avec amour dans ce même podcast. il se trouve que Homefront The Revolution avait un secret qui était caché au tréfonds de son code, parce qu'il y a quand même des gens qui sont amusés à trifouiller le code de Homefront The Revolution, quoi. Quand même. Hein. Et ils ont trouvé, tout simplement, caché dans le code, un portage PC HD de Time Splitters 2. Jouable au clavier souris.
C'est ouf.
Voilà. Alors, je vous mettrai le lien vers la vidéo qui explique comment on fait. Pour parce qu'il y a des, par contre tu y joues pas comme ça, hein. C'est pas comme si t'avais une interface dans le jeu pour y accéder, c'est vraiment caché dans le code en fait, et il faut
créer
des fichiers pour pouvoir réussir à activer les niveaux. Par contre apparemment t'as accès à tous les niveaux du jeu, et franchement ça tourne, hein. C'est ça a l'air même meilleur que le jeu dans lequel il est, quoi, donc
triste. Ok, bon, bah, en tout cas, voilà, c'est assez étonnant. C'est le genre d'easter egg qui sont, qu'on voit très peu, hein, forcément. Mais, j'ai lu la news, j'étais là en mode, ah oui, d'accord. On peut faire ça, donc.
Les mecs, ils s'ennuyaient, tu sais, bon, tiens, si on faisait un portage HDPC de Time Splitters 2, parce que pourquoi pas. Mm-hmm. Donc, ça fera plaisir aux fans, parce que Time Splitters, c'est quand même une franchise, qui a beaucoup de fans, notamment chez les joueurs GameCube. Donc voilà.
Ça fera plaisir. Ça fera vendre peut-être un petit peu plus de Homefront The Revolution, en tout cas. ok, mais très bien. Passons à la suite avec, là pour le coup, ce n'est pas un portage, mais un remake. Un remake de Alex Kidd in Miracle World, qui s'appellera donc DX. Et ça sortira le 24 juin. Et c'est, ma foi, fort agréable à l'œil, en tout cas.
Alors, moi, je suis un peu contrarié avec ce portage.
Ah, dis-moi.
C'est que ça a l'air magnifique, franchement. Enfin, ça donne la bave aux lèvres. C'est juste que je me rappelle du jeu original, en fait. C'est ça le problème, quoi. C'est que Alex Kidd, Alex Kidd, c'est quand même le jeu super difficile qui est quand même assez exigeant et où tu joues ta vie sur un pierre-feuille-ciseau, quoi. Contre un boss. C'est-à-dire que tu peux en avoir chier pour arriver jusqu'à un boss, et là, le jeu, il te fait pierre-feuille-ciseaux. Ah, pas de bol, dégage. Voilà. Enfin, moi, après, je vous dis ça, je me base sur des souvenirs que j'avais j'avais 8-9 ans, hein, ou un truc comme ça. Mm. Donc, bon, ça remonte quand même à assez loin, Alex Kidd. Mais, si tu veux, c'est pas un jeu qui m'a laissé un super souvenir en tant que gamin. Donc, je me dis, j'espère quand même qu'ils ont un minimum retravaillé le jeu, parce que s'il est aussi injuste que dans mes souvenirs, putain, donnez pas ça à vos enfants, ils vont pleurer des larmes de sang, quoi. Hein.
Ouais, ça fait partie, tu sais, de ces jeux qui sont absolument magnifiques à l'œil, et tu te dis, oh là là, ça plaira forcément aux gamins, mais en fait, si derrière la surcouche de kawaii et de mignonitude, t'as juste un jeu impitoyable, c'est peut-être pas le but. Mais voilà. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais été Sega, pour le coup, dans mon enfance. J'ai jamais eu de console Sega, donc Alex Kidd, c'est vraiment... Ça fait pas du tout partie de moi, mon patrimoine de nostalgie. Mais je sais que ceux qui ont joué en étant enfant le gardent quand même en tête. J'en parlais un petit peu avec Chris Faita. Enfin, c'est plutôt Chris Faita qui m'en parlait dans un stream et qui me disait qu'il avait trop hâte d'y jouer. Et donc du coup, bah, ce sera possible à partir du 24 juin 2021 et sur à peu près toutes les plateformes, puisque ça sortira sur Steam, sur Epic Game Store, sur Nintendo Switch, sur PS4, PS5, sur Xbox Series et sur Xbox One. Donc ouais, bon,
En plus c'est du bon pixel art comme on les aime, pour le coup, parce que c'est du pixel art détaillé où tu sens que les mecs ils sont fait chier, quoi. Voilà. LKBD juste qui nous précise dans le chat que apparemment c'est un développeur de Homefront The Revolution qui a mis les gens sur la piste de ce portage HD, en fait. Donc les gens derrière, ils ont cherché. En fait, les développeurs, ils ont craqué, ils ont dit, mais merde, ils trouvent rien là.
Personne ne trouve.
Allez hop.
Et oui, mais forcément, s'il y a personne qui cherche dans ton jeu, ils vont avoir du mal à trouver... À trouver un easter egg. Effectivement. Ok, on parlait de remake, parlons d'un autre remake, celui-là extrêmement attendu également, c'est Diablo 2 Resurrected, et il se trouve que cette semaine, Blizzard a un peu distribué les clés d'alpha technique à un certain nombre d'influenceurs et de journalistes.
J'ai pas été sélectionné,
on n'est pas influenceur à ce point-là, mon cher tyran.
Bah, apparemment, il y a quand même une loterie aussi, hein, quand même.
Ah, d'accord, ok. Bon, Bon, en l'occurrence, j'étais pas inscrit à la loterie, donc ça risquait pas de m'arriver. mais ce qui nous permet quand même de nous rendre compte de la fidélité du remake au jeu original, mais aussi d'un certain nombre de choses intéressantes que tu as relevé toi, mon cher Tyran, parce que tu t'es bien rencardé sur la question, n'étant pas toi-même inscrit à cette sur la liste de cette alpha technique. Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on a pu voir, notamment dans les streams de divers influenceurs?
D'un point de vue technique, pour moi, ça là, c'est ce qu'il aurait dû être fait sur Warcraft 3 Reforged. Ouais. C'est-à-dire que il y a un respect du matériau original, il cherche à garder les esprits du matériau original tout en rajoutant des détails techniques modernes qui font que ça claque. Notamment, pour moi, le point numéro un qui fait que ce jeu est magnifique, outre le fait qu'ils ont retravaillé toutes les textures et qu'il y a des environnements, tu sais, tu les regardes, tu dis « Ah, c'était comme ça dans ma tête », mais en vrai, tu regardes l'original et ça avait rien à voir. Et surtout, ce qui est fou, c'est la gestion de la lumière. Franchement, oui. Regardez les endroits où il y a du feu, par exemple, où tu vois que sur l'original, il se passe rien, c'est normal, tu vois, c'est un jeu avec des pixels comme à l'époque, les moteurs à l'époque, ils géraient pas le fait que quand t'as de la lumière avec des pixels, ça se reflète sur des surfaces, etc., c'était pas possible. Donc si tu voulais des reflets, il fallait modifier des pixels à côté, enfin bref, c'était une horreur, quoi. Donc rien que ça, tu vois, en termes d'ambiance, de réalisme, on va dire, ça rajoute quelque chose, et surtout, moi ce qui m'a bluffé, c'est l'eau. Quand il y a des séquences à Ludgolain, qui est la ville dans le désert, où tu vois, ils sont au bord de l'eau, et tu vois les vagues, etc., c'est magnifique, ou même les sorts, ils ont rajouté plein de détails sur les sorts, etc. Franchement, il y a un respect absolu du matériau original, tout en essayant vraiment de rajouter des détails, que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes de technique moderne, pour qu'elles apportent vraiment quelque chose au jeu, quoi. Le point où je me pose des questions, par contre, outre le fait que au départ je me disais est-ce que la manette ça va aller parce que vous savez les portages oui. de jeux qui n'étaient pas prévus à la base pour la manette sur des manettes j'étais un peu méfiant. Écoute, pour le coup apparemment ils ont très bien réussi le portage. Je vous mettrai un lien vers une vidéo où il y a un gars qui explique exactement comment fonctionne le jeu à la manette et visiblement le jeu sera même plus agréable à la manette pour tout ce qui est déplacement ou même balancer les sorts, parce que t'as plus de raccourcis qui sont bindés sur les sorts, etc. Donc ça a l'air vraiment extrêmement bien pensé. Bon, par contre, évidemment, comme toujours, un jeu où t'as manette versus souris, évidemment, quand tu joues à la souris, c'est beaucoup plus facile de viser. Alors, c'est normal. Voilà.
Forcément. Moi, tu vois, ça me parle, par contre, ces histoires sur la manette, parce que, vous le savez, j'ai beau jouer beaucoup sur PC, dès que je peux utiliser une manette, je le fais. Et peut-être que ça pourrait m'intéresser.
Moi, tu sais, je me dis sur Switch, franchement.
Ouais.
Ça le fait, quoi. Franchement.
Oui, certainement, ouais.
Là, ce qui est intéressant aussi, tu sais, par rapport à la manette, c'est que le jeu original, et ils ont gardé ça sur la version PC, c'est 8 directions. Ouais. Mmh. Quand tu joues au stick analogique, t'as un jeu qui est beaucoup plus moderne en termes de réactivité, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que 8, hein, sur le stick analogique, en fait.
Oui,
alors que
oui,
sur la souris, non. Voilà. Donc forcément, dès que t'as plus de 8 directions, tout de suite, le jeu, il a une fluidité et c'est agréable à prendre en main, quoi, tout simplement.
Ouais.
Le point, moi, qui m'intrigue, c'est ceci. Il faut savoir que, vraiment, ils ont respecté le jeu original au point qu'en fait, en arrière-plan, t'as le jeu original qui tourne. C'est le même moteur qu'à l'époque, en fait. Hein.
Mm-hmm.
C'est juste qu'ils l'ont mis à jour, etc., mais c'est le même moteur. Et du coup, en arrière-plan, t'as une espèce de sous-couche qui tourne à 24 FPS comme à l'époque.
Ouais.
Ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu passes sur la version HD, elle a 60 frames par seconde. Hein,
ouais.
Et en gros, elle utilise la différence de frame avec la sous-couche sur une seconde pour afficher des animations plus détaillées. Donc la physique du jeu, si tu veux, elle est à 24 FPS, mais les animations, elles sont à 60. Et la question D'accord. que je me pose, du coup, c'est que si la physique du jeu était à 24, est-ce qu'il n'y a pas des moments, en tout cas pour nos amis qui ont des yeux bioniques et qui ont des skills, des réactions de fou, tu vois, il y en a, hein, sûrement pas moi, mais il y en a. Est-ce que ça va pas faire bizarre pour les joueurs un peu avancés d'avoir cette physique qui tourne en arrière-plan à 24 FPS? Est-ce que tu vas pas avoir, tu sais, une impression de latence qui va faire bizarre, en fait? Parce
ouais,
que tu vas te dire, normalement, la physique, elle tourne à 24 FPS, mais le jeu, il s'affiche à 60. Je pense que, en termes de timing, ça peut faire bizarre. Surtout qu'ils ont fait d'autres modifications qui font un peu bizarre. Notamment, il y a un espèce de pas chassé qu'ils ont mis en place en termes d'animation. C'est-à-dire que dans Diablo 2, de base, tu sais, quand tu recules en arrière, bah, ton personnage, il se retourne et il recule. Dans la version Resurrected, il fait un pas chassé en arrière. Donc, ça veut dire qu'en termes d'animation, il y a des choses qui se passent, tu vois, qui sont pas prévues de base en jeu, en fait. Du coup, je me dis, mais ça, malheureusement, je peux pas en juger parce que moi, j'ai pas le jeu entre les mains. Est-ce que ça perturbe pas, en termes de timing, les joueurs d'un peu de haut niveau, quoi? Voilà, ça, c'est le premier point. Ensuite, un point important, qui, à mon avis, est pas assez souligné, c'est que, alors, une chose, le jeu sera jouable hors ligne, en solo. Ça, c'est très bien.
Ouais,
aussi,
c'est une bonne
autre
nouvelle.
Information importante, le modding sera supporté.
D'accord.
Par contre, pas n'importe quelle forme de modding. Attention. Parce que il faut savoir que sur Diablo 2, les gros mods notamment, on va dire qu'ils utilisent des techniques pas très catholiques pour rentrer au chausse-pied des choses qui n'étaient pas prévues dans le jeu. Tu vois. Je pense notamment à Path of Diablo ou Project Diablo 2. Qui sont deux modes qui rajoutent des trucs qui étaient absolument pas prévus de base dans le jeu, qui rajoutent des nouveaux sorts, des nouveaux modes de jeu, etc., qui rajoutent le système de map de Path of Exile et tout. Ces modes-là, pour fonctionner, ils fonctionnent grâce à deux choses. Les serveurs privés, parce que évidemment, ils passent pas sur les serveurs officiels de Blizzard.
Bah, bien sûr, ouais.
Voilà. Et l'injection de code.
D'accord.
Ces deux choses-là n'existeront a priori pas dans Diablo Resurrected. C'est-à-dire que pour les serveurs privés, il y avait un mode qui gérait ça, mais je doute que ce mode il soit supporté par Blizzard. Donc ça m'étonnerait très fortement que ça fonctionne. Et surtout, a priori, il ne sera pas possible de faire de l'injection de code dans Diablo 2 Resurrected. Donc ne vous attendez pas à ce que les gros modes de Diablo 2 soient portés sur Diablo 2 Resurrected. Ça me paraîtrait très étonnant. Voilà.
D'accord.
En tout cas, moi, ce que je vois, pour le moment, j'ai envie de dire chapeau Blizzard, c'est dommage que vous n'ayez pas fait la même chose avec Warcraft 3 Reforged.
Oui, c'est un petit peu dommage, effectivement. On le regrette un petit peu, surtout moi. Mais bon, écoute, visiblement, il y a certaines licences qui sont un peu plus chères au cœur de Blizzard que d'autres, visiblement.
Bah, je pense aussi qu'ils se sont fait tellement défoncer la gueule sur Warcraft 3 Reforged qu'ils se sont dit, bon, on va peut-être faire un effort au lieu de bâcler le travail cette fois pour éviter de se faire défoncer, quoi.
Enfin, Diablo 2 Resurrected, à mon avis, ça fait un moment qu'il est en dev, donc tu vois, je pense qu'ils sont partis sur une direction qui était juste différente pour les deux remakes. Et bon, il y en a une qui est un peu plus payante que l'autre, quoi. Et bon, il faut pas être devin pour avoir l'idée que Resurrected c'est mieux que Reforged. Mais bon, visiblement, ça n'était pas leur cas. Ok, parlons de Outriders. Outriders qui fait encore parler de lui cette semaine pour un gros bug que tu vas nous présenter tout de suite. Tiens, ça a trait à l'inventaire. C'est quand même un petit peu ballot pour un looter shooter.
Alors. Une précision, le bug dont je vais vous parler là, ça fait depuis le lancement du jeu qu'il est connu.
Mais putain.
Et depuis le dernier patch, il est censé être réglé.
Ah.
Point très important. Du coup, comme le bug était censé être réglé, il y a des gens qui se sont lancés sérieusement dans le jeu. Le problème, alors ce bug, je vous dis ce qu'il fait, il dégage tout ce qu'il y a dans votre inventaire. Voilà. Il y a des gens qui ont joué une centaine d'heures, ils ont perdu tout leur inventaire. Et surtout, chose importante, les développeurs ont dit qu'ils pourraient restaurer les items perdus dans les inventaires. Pas tous, mais les plus importants, on va dire.
Mmh.
Mais en fait, vous fiez pas à ça parce que c'est de la merde. Parce que certes, ils pourront les restaurer, mais pas avec les mêmes stats. Et si vous avez joué un tant soit peu à des hack and slash, ou en tout cas à des jeux où les stats ont un rôle important dans tes builds de personnages, etc., vous savez que c'est de la merde s'ils restaurent pas les stats. Ça sert à rien.
Bah parce oui, que clairement.
Quand t'as passé des heures et des heures à farmer et que t'as trouvé l'item avec la stat qui va bien que tu cherchais depuis des heures, si on te restaure l'item pas avec la même stat, mais ça sert à rien ce que tu fais en fait. Moi j'en ai rien à foutre de l'item. Ça répare aucunement le préjudice. Quoi, si tu veux. Donc moi, ça c'est un peu mon coup de gueule de la semaine. Les gens, mais vous pouvez pas lancer un looter-shooter ou qu'il y a une emphase comme ça sur des mécaniques de grind, de loot, etc. et avoir un bug comme ça qui t'efface tout ton loot au bout de 100 heures, quoi. C'est pas possible.
Ouais, c'est chaud.
Faut être un peu sérieux, quoi.
Ouais, ouais, clairement.
En plus, dire aux gens, oui, c'est bon, le bug il est réglé, sauf que le bug il est pas réglé, quoi.
Oui, je crois que c'est ça le pire, finalement. C'est que tu t'essaies de rassurer les gens en mode ça y est, vous pouvez jouer au jeu sérieusement, et derrière en fait tu te fais matraquer, quoi.
Voilà, donc moi la série, pourquoi je voulais parler de cette news cette semaine, c'est que si vous avez eu envie de jouer au jeu, moi je parle même pas de la qualité ou pas du jeu, parce que je sais que c'est un jeu qui divise pas mal. Il y a des gens qui disent que c'est de la merde, il y en a d'autres qui disent que c'est fabuleux, voilà, bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie de jouer au jeu, et je pense que les fans du jeu, même eux, seront d'accord avec ça, attendez un ou deux mois que le jeu soit patché, qu'il tourne enfin, et que vous risquiez pas de perdre 50 heures de jeu parce que les développeurs ils sont pas foutus de régler un bug qui aurait dû être réglé avant la release, quoi. Voilà.
Ouais. Ok, bon. Il y a un jeu qui aimerait sortir en bon état et en meilleur état en tout cas que Outriders, c'est Deathloop. Deathloop, le dernier né de d'Arkane Studio, qui est en difficulté sur son développement, qui est de nouveau retardé, puisqu'il passera, il devait sortir le 21 mai 2021, il sortira finalement le 14 septembre 2021. C'est le studio lui-même qui l'a annoncé cette semaine via Twitter. On commence à être habitué à ces annonces Twitter avec une petite annonce, avec juste un texte et une image, pour nous dire que bon bah voilà, on a envie de faire en sorte que le jeu soit le meilleur possible. Bon bah voilà, il se trouve que c'est Deathloop cette semaine. Donc 6 mois de retard, finalement ça leur permettra de sortir quasiment sur la période fast pour le jeu vidéo. Et donc du coup ce qui permettra peut-être aussi aux gens d'y jouer sur PlayStation 5 quand la console sera peut-être plus disponible, puisqu'on le rappelle, hein, l'exclusivité console a été négociée chez PlayStation malgré le fait que Arkane et Bethesda appartiennent désormais à Microsoft. Le contrat d'exclusivité sera respecté. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette
Alors,
mon cher Tyran?
Je rappelle quand même qu'à la base le jeu il était censé sortir avec la PlayStation 5, hein, donc ça c'est quand même c'est pas le premier report qu'il y a sur le jeu. C'est une bonne nouvelle. Enfin moi je veux dire, si on peut éviter un Cyberpunk 2077 2.0, moi ça me va très bien. Il y a pas de souci. Déjà sur Cyberpunk, je l'avais dit, reporter le jeu d'un an s'il faut, mais reportez-le, quoi. Voilà. Ouais. Et que les développeurs puissent prendre leur temps, qu'ils aient pas crunché, etc. Moi, la seule chose qui me fait peur, et je vais être le pessimiste de service, c'est que, certes, le jeu, il est reporté de 6 mois, mais je suis pas sûr que ça va être un long fleuve tranquille pour les développeurs, si tu veux. Quoi. Je pense même plutôt que... J'ai un peu peur que ce soit 6 mois de crunch. Voilà, pour résumer mon avis sur la question. Quand t'as un jeu qui est reporté à de multiples reprises comme ça, ce n'est jamais bon signe. Bon, j'espère qu'il sortira dans un bon état, et j'espère que les salariés travailleront dans des conditions décentes. C'est tout ce que j'ai à dire.
C'est en tout cas tout ce qu'on leur souhaite, évidemment, puisque vous le savez, hein, les mois supplémentaires qu'a eu Cyberpunk se sont traduits par des mois de crunch supplémentaires pour les développeurs. Donc c'est effectivement toujours une problématique compliquée, une fine ligne sur laquelle il faut jouer l'équilibriste dans l'industrie du jeu vidéo, et on aura l'occasion d'en reparler en fin d'émission au sujet du crunch.
LKBD passons. Qui dit dans le chat qu'apparemment il y a... Ah oui, c'est vrai, il y avait une vidéo.
Oui, une fois n'est pas coutume, c'est vrai.
C'est vrai qu'il y a une
petite
mauvaise langue,
vidéo
on est mauvaise
pour en parler de vive voix, suivi effectivement de ce petit message avec l'image placardée que l'on connaît tous. Ok, passons à la suite avec un jeu pour le coup qui a mis du temps avant de se présenter officiellement à nous. C'est Age of Empires 4, alors que la vidéo charge, c'est triste. Age of Empires 4 qui est repris par Relic, me semble-t-il. Age of Empires 4 qui est un jeu forcément très attendu puisque c'est probablement le seul RTS AAA dont on entendra parler ces deux prochaines années. Il y a eu une fan preview cette semaine pour nous présenter un certain nombre de choses, mais surtout histoire de se gargariser un petit peu sur le fandom Age of Empires, mais aussi présenter à quoi ressemblerait le jeu. Et écoute, au-delà du fait que c'est joli, c'est plutôt cool, mais il y a eu pas mal de petites choses qui ont été révélées, notamment dans 5 minutes de gameplay. Et j'ai apprécié notamment le fait que c'est pas été un trailer, tu sais, haché dont on parlait il y a 2 semaines. Il y a quand même des informations assez intéressantes à retirer de ce trailer. Est-ce que tu veux réagir là-dessus ou est-ce que tu me laisses la parole?
Moi, j'ai un truc à dire quand même. Certes, c'est joli. Par contre, moi, les animations, elles me font très peur.
Ouais.
C'est quand même très très haché. Alors, j'attends pas parce que on est d'accord, hein, c'est un RTS, mais tu regardes StarCraft 2, je t'assure que les animations, elles sont beaucoup plus shadées que ça, hein, ouais. Notamment.
Ouais. Il y a un truc qui me questionne, notamment, c'est le framerate. Il y a un certain nombre de séquences où c'est pas très très fluide. Alors on va dire, on va mettre ça sur le coup du fait que le jeu n'est pas terminé machin. Mais il y a deux choses. C'est autant les environnements et les décors, enfin et les bâtiments sont plutôt très jolis. Autant les unités, tu sens que il faut en afficher beaucoup et du coup ils ont peut-être rogné sur ces marges-là puisque les unités sont pas non plus incroyables. Donc à voir évidemment comment il se débrouille, mais pour le coup Age of Empires c'est un jeu qui a quand même pour objectif d'afficher beaucoup d'unités guerrières à l'écran, donc peut-être que le curseur il s'est mis là. On rappelle que Relic, le dernier jeu de stratégie qu'ils ont développé, c'est Warhammer 40 000 Dawn of War 3, qui pour le coup était un jeu... ouais, qui s'est fait défoncer, mais aussi qui affiche beaucoup moins d'unités à l'écran qu'un Age of Empires like quoi. Donc il y a ça, il y a d'autres choses que je voulais noter. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que les forêts notamment dans Age of Empires 2, c'est des murs. C'est-à-dire que tu vois les gens en compétitif utiliser la forêt pour waller autour de leur base, donc pour se protéger et surtout aussi avoir besoin de fabriquer moins de murailles. Là, visiblement, ça change complètement puisque les unités pourront traverser a priori les zones de forêt, mais en plus s'y cacher avec une mécanique d'embuscade. Donc ça, c'est totalement nouveau dans Age of Empires et ça peut, à mon avis, proposer de nouvelles tactiques possibles dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt cool.
Ouais. Bah globalement après très sincèrement on en a pas vu tant que ça du jeu malgré tout quand même je trouve hein. Après je sais pas s'ils ont annoncé quand il va sortir le jeu ou pas.
À l'automne 2021.
On va voir mais moi vraiment c'est vraiment la partie technique qui me fait un peu peur. C'est il va falloir qu'ils bossent ça. J'ai pas l'impression qu'on ait vu l'interface aussi.
Fait de temps en temps tu vois des trucs mais c'est pas très
ouais, mais ça tu vois alors succinct, je sais que c'est pas sexy à montrer mais il faut le montrer à un moment donné quoi parce que t'es dans un RTS et si ton interface elle est pas chiadée ça va pas le faire quoi. Bon écoute hein, on a encore le temps hein, d'ici l'automne on va leur laisser le bénéfice du doute. Moi j'ai envie que ce jeu il marche hein, qu'on soit clair.
Ouais, moi aussi
j'espère doublement, c'est-à-dire que j'ai envie qu'il marche pour les RTS, mais j'ai envie qu'il marche aussi pour Relic, parce que Relic, s'ils se plantent encore une fois, je sens qu'ils vont passer à l'as, hein, parce que ces gars, ils vont pas supporter X bits d'affilée, quoi, ça va pas être possible, quoi.
Donc, ouais, c'est sûr. Il y a un autre truc que je voulais noter, parce que autant Age of Empires, c'est un jeu où t'as des grosses batailles de troupes, etc., mais c'est un jeu qui est plutôt axé sur la macro-gestion que la micro-gestion. Et il y a un truc que j'ai noté, notamment sur la fin de partie qu'on nous montre dans le trailer, c'est que visiblement, il y a des espèces de personnages de héros. Ce qui n'est pas présent normalement habituellement dans le multijoueur d'Age of Empires. Et ça, pour le coup, il va falloir qu'ils fassent très attention parce que dans Age of Empires, il y a énormément de factions. Et si chaque faction a un ou plusieurs héros, il va falloir qu'ils fassent très très gaffe à l'équilibrage. Donc ça pour le coup, ça m'interpelle un peu, ça m'inquiète aussi. À la toute fin aussi, tu vois une espèce de bulle de conversion autour d'un moine. Qui convertit genre 25 unités en même temps, ça paraît un petit peu fort. Donc je sais pas, je me pose des questions, mais ce qui est sûr c'est que ça peut ça, oui, Mythology il y avait des héros, mais c'est le principe de Age of Mythology, mais moi je te parlais plutôt d'Age of Empires 2 et Age of Empires 3 qui sont plutôt les jeux compétitifs, puisque il y a aussi cette attente là avec Age of Empires 4, c'est que ça soit peut-être le renouveau de la scène compétitive sur le RTS. Et ça, pour le coup, je sais pas. Parce que, pour le coup, Relic en a un petit peu parlé hein, dans sa fan preview. Disait qu'il y avait justement une scène compétitive dans l'e-sport autour de Age of Empires. S'ils espèrent reprendre ce flambeau-là, il va falloir qu'ils soient béton là-dessus. Hein. Donc, et puis
LKBD qui souligne dans le chat aussi que certaines factions ont des spécificités, notamment les Mongols qui peuvent passer d'un endroit à l'autre, etc. Donc,
ouais, ça c'est trop cool.
Bah c'est bien qu'ils travaillent un peu plus la différenciation entre les différentes factions. Alors moi j'avoue j'ai pas joué à Age of Empires 3. Je suis clair. Moi ça s'est arrêté au 2. Et le 2, je me rappelle que quand même il y avait beaucoup de copier-coller. Hein. Oui. Quand même, hein. c'était pas StarCraft, pas du tout, ça n'avait rien à voir. Voilà.
Clairement pas. Donc écoutez, on attend, évidemment, on reste en attente de plus d'informations autour de ce jeu. Moi j'ai envie d'y croire, j'ai surtout envie que ça marche et que ça me plaise. Pas forcément d'un point de vue compétitif, mais aussi d'un point de vue campagne. Ils ont révélé le fait qu'une des premières campagnes, ça sera la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Donc c'est plutôt classique en termes de setting historique, mais écoute, pourquoi pas. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Voilà, j'attends de voir. C'est prévu pour l'automne 2021. Donc écoutez, on reste vigilant. Wait and see. Passons à la suite avec un jeu vidéo qui pourrait paraître trop beau pour être vrai, me dit Tyran. C'est un jeu qui s'appelle The Day Before. Alors, c'est un jeu de survie, visiblement, en tout cas de ce que j'en ai vu.
Vous voyez The Division, vous voyez DayZ, imaginez que ces deux jeux, ils ont un enfant. Voilà.
Ouais, ça a l'air d'être un peu ça. Sachant que le jeu commence, enfin le trailer commence avec une séquence à la Mud Runner et j'étais là en mode c'est quoi ce jeu. Et puis après en fait j'ai simplement reconnu comment il s'appelle ce jeu, et bah oui c'est DayZ et The Division, où là tu vois en fait une séquence de loot tout simplement de personnages dans une apocalypse zombie assez classique, et tu vois que ça défouraille dans tous les sens. Qu'est-ce qui t'interpelle dans ce jeu, Tyran?
Alors, c'est un jeu que je vois souvent passer en ce moment, parce que c'est pas la première fois que je vois des vidéos hein, de The Day Before.
Ouais.
Et je sais pas, t'as un signal d'alarme qui se déclenche à chaque fois que je vois ce jeu, je me dis, c'est quand même énormément mis en scène, c'est quand même super propre, beaucoup trop propre.
Ouais.
Et tout ça est quand même scripté au poil de cul, quoi. C'est-à-dire, si vous regardez vraiment la vidéo, tu vois que tout est scripté du début à la fin, quoi. Genre, à un moment donné, tu sais, il déclenche une alarme. Bon, déjà, tu seras à la place des gars, tu dis, mais pourquoi tu tripes pas toute l'alarme déjà, ça sera quoi en fait, c'est quoi l'objectif de ce que tu fais? Et comme par hasard à ce moment-là, quand il déclenche l'alarme, bon, outre le fait qu'évidemment ça attire tous les zombies du coin, parce que comme dans tous les jeux du genre, les zombies sont attirés par le bruit, donc du coup tous les zombies du coin se ramènent, et surtout t'as ce qui est totalement incompréhensible dans un jeu post-apo, t'as la police en tout cas des joueurs qui se baladent avec le gyrophare et tout, et qui arrivent à ce moment-là, et les joueurs se barrent pour se cacher des autres joueurs, en fait. Et ouais. Tu vois que tout est scripté du début à la fin, tu vois que tout est nickel, qu'il n'y a pas un poil de, il y a pas un poil de cul qui dépasse, et tout ça, en fait, qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle le trailer d'Anthem, en fait.
Ah.
C'est-à-dire, si tu veux, un truc, tu dis, est-ce que ce jeu existe? Vraiment? Ouais. Parce que, alors certes, tu vois qu'il y a des éléments d'interface, hein, mais est-ce que ce que je vois là, c'est vraiment le jeu qui tourne ou c'est juste un vertical slice où on me montre l'intention du jeu et derrière, quand tu vas lancer le jeu en accès anticipé, tu vas te rendre compte que c'est absolument dégueulasse, qu'il y a des bugs partout, qu'il n'y a rien qui marche et que c'est complètement foireux. Donc, moi, je voulais juste parler de ce jeu. Pourquoi ? Parce que certes, c'est un jeu qui a l'air super sexy sur papier. C'est-à-dire que rien que la séquence du début à la Mud Runner, tu dis putain, les mecs, ils ont changé du détail, hein, ils se sont fait chier. Hein. Le 4x4 qui est coincé dans la boue, qui a du mal à avancer et tout. Si à ce moment-là t'as des zombies qui démarquent, je peux dire que t'es pas bien dans ta voiture. Hein,
c'est clair. Voilà.
Et même d'une manière générale, l'aspect technique est super chiadé, c'est fluide, y a rien à dire quoi. Enfin, franchement, c'est propre. Le truc, c'est que je suis pas sûr que ce jeu-là existe en fait. C'est ça mon problème.
On te la fait pas à toi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, il y a un truc qui m'a frappé très très vite, c'est les animations du personnage et la manière dont bouge la caméra. Ça c'est assez frappant sur le côté très très posé et lourd du truc, et je me dis que ouais, il y a peut-être un truc, ça cache peut-être quelque chose effectivement.
Non, et puis de toute façon, tu vois la manière dont il joue, enfin jamais les gens qui jouent à ce type de jeu jouent comme ça quoi. Les moments, tu sais, où ils prennent le temps, tu sais, ils font bien le plan large pour te montrer ce qu'il y a au loin, etc. Quelqu'un qui joue vraiment, il joue pas comme ça. Hein. Enfin, c'est totalement mis en scène du début à la fin, quoi. Donc, j'attends de voir. J'aimerais que le jeu soit aussi cool qu'il en a l'air, mais on va dire que à force de me faire arnaquer par des MMO qui m'en promettaient trop, j'ai tendance à me méfier des jeux, tu sais, qui te montrent des super choses en trailer et derrière tu relances le jeu et t'as un truc complètement dégueulasse, quoi. Donc
c'est développé par un studio qui s'appelle Fantastic et c'est un step-up assez énorme en termes de projet puisque ils sont responsables notamment d'un jeu dont on avait parlé précédemment qui s'appelle The Wild Eight, qui est pareil un jeu de survie mais pour le coup vu quasi isométrique vu de dessus en low poly etc. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à l'heure actuelle notamment, qui est simplement un MMO qui ressemble vraiment à du triple A.
Oui, puis tu dis ils ont trouvé où le fric pour faire ça quoi, parce que là moi ce que je vois c'est un jeu qui va être au niveau d'un triple A quoi.
Ouais.
Il est où le pognon quoi?
C'est ça.
Il sort d'où? Voilà.
C'est ça. Donc, bon, écoutez, on en reparlera probablement une prochaine fois, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est un petit peu circonspect face à ce nouveau projet. Donc, le jeu s'appelle The Day Before, et je crois qu'on n'a pas de date de sortie encore.
Non.
Très bien. Parlons un petit peu de la suite avec une autre news qui nous en apprend un petit peu plus sur comment ça se passe en coulisses chez Epic Games, mais surtout en coulisses de l'Epic Game Store. Vous le savez, Epic Games s'est lancé notamment sur le retail, donc la vente de jeux vidéo dématérialisés pour concurrencer Steam, et on est très marqué notamment par la guerre entre Steam et Epic Games qui propose notamment des marges beaucoup plus intéressantes pour les développeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine autour de l'Epic Game Store, mon cher Tyran ?
Ben, alors, ça va surprendre personne. Enfin, je pense pas que les gens vont tomber de leur chaise hein, en apprenant ça. Mais il se trouve que Epic Games perd de l'argent. Voilà.
Ah.
Bon, vous vous en doutiez, surprise. Je pense, hein, surprise, ils filent des jeux gratos toutes les semaines, a priori, bon, et vu que les exclusivités, en plus, ils les payent à côté, au bout d'un moment, ça doit coûter cher, quoi. Ce qu'on savait pas, évidemment, c'était le montant. Et du coup, le montant, c'était 181 millions en 2019 et 273 millions en 2020.
Ah oui.
Moi, l'information que je trouve intéressante là-dedans, c'est le 2019 à 2020, c'est-à-dire que entre 2019 et 2020, t'as 90 millions en plus dans la balance, quoi. C'est-à-dire que ils continuent à perdre de l'argent, mais ils en perdent encore plus d'argent qu'avant, quoi, tu vois. Ouais. C'est,
On va dire que c'est 80% d'augmentation 2019-2020, c'est assez fou, hein.
Ouais.
C'est, donc là, on est vraiment dans la phase d'investissement, hein, sur ce projet-là pour Epic Games. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'ils atterrissent, quoi. Parce que c'est bien de d'occuper le terrain, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut rejoindre la rentabilité, quoi. Parce que tu peux pas faire ça pendant 20 ans, quoi. Alors effectivement, le porte-monnaie de Fortnite est là, comme dit LKBD dans le chat, mais.
Et encore, il est un peu moins là qu'avant depuis que Epic a décidé de s'attaquer à Apple. Ce que je trouve très bien, ouais. Hein, je le rappelle, mais voilà, ça coûte cher. Hein. Bah depuis avoir ton jeu sur l'App Store, ça fait mal. Hein, voilà.
Donc, ok, mais c'est vrai que c'est intéressant. Tu tapes quasiment un 100% d'augmentation des pertes. Et c'est qui se compte en millions, c'est assez, enfin en centaines de millions, c'est assez assez impressionnant. Mais ça montre aussi à quel point la stratégie d'Epic Games est extrêmement agressive.
Que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'essayer de concurrencer Steam, hein, parce que si c'est ce qu'il faut pour attirer les gens. Moi, la question que je me pose, parce que effectivement, comme le dit KLBD, ils ont prévu d'être rentables en 2023. Écoute, pour le moment, ils sont pas partis pour. Enfin, pour le moment, la courbe, a priori, elle va pas dans ce sens-là. Bon, malheureusement, on connaîtra pas les chiffres. Hein. C'est-à-dire que là, on l'a su, je le précise, grâce au procès qu'il y a avec Apple. C'est grâce à ça qu'on connaît ces chiffres-là. Hein. Moi, ils disent qu'ils sont rentables en 2023. J'attends de voir parce que, tu sais, c'est pas parce que t'offres des jeux gratuits que tu as des exclus que les gens ils vont venir d'eux-mêmes d'acheter des jeux sur ton store, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont venir pour les exclus, effectivement. Ils vont venir pour les jeux gratuits, mais à quel moment, tu sais, quand tu auras un jeu sur ton store et un jeu sur le store d'en face, ils vont dire « Ouais, on va aller chez Epic. »
C'est ça.
Parce que moi, à l'heure actuelle, moi qui n'en ai rien à cirer des exclusivités et des machins, sans j'ai déjà beaucoup trop de jeux à faire, donc c'est exclusif, écoute, bah j'y jouerai pas et puis c'est tout, quoi. Je rappelle ma position sur les Big Game Store, hein, c'est que moi j'ai rien contre le fait qu'ils soient sur le marché PC, c'est très bien. Maintenant, il faudrait pas prendre les clients pour des cons, c'est-à-dire que quand tu fais un store, bah, il faut le faire proprement. Quand t'as un store qui a même pas le dixième des features de Steam, et je parle même pas des features avancées de Steam, hein, je te parle de features de base comme un panier pour faire tes achats, pour montrer à quel point ils en ont rien à foutre, hein, parce que le panier quand même c'est c'est la base d'un site de e-commerce normalement, hein, mais voilà. Le truc c'est que moi à l'heure actuelle, je me dis si je compare les deux sorts, je me dis mais pourquoi en fait je vais prendre un jeu sur l'Epic Game Store alors que t'as aucune des features de Steam qui rendent Steam indispensable en fait. Parce que Steam, qu'on soit clair, c'est pas grâce aux soldes hein, que tu y vas dessus. Hein. Ça fait longtemps que les soldes de Steam sont plus aussi intéressantes qu'elles l'étaient avant. Hein. Donc, ce qui fait que Steam, ça marche, c'est tout l'aspect communautaire, multijoueur, etc. Le remboursement des clients, etc. Donc, il va falloir que s'ils veulent être compétitifs à un moment donné, et ne plus avoir à se baser sur les exclusivités et sur les jeux qui sont offerts gratos, c'est-à-dire ce qui coûte de l'argent concrètement, bah il va falloir que le store il soit solide à un moment donné, quoi. Et pour le moment, on n'est pas parti pour, hein. Donc
oui, c'est ça.
Verra.
Et puis l'infrastructure, c'est simple. À chaque fois, en fait, de chaque semaine, j'y vais juste pour récupérer mon jeu gratos, machin. Parce qu'il n'est pas impossible que de temps en temps, il y ait des trucs qui m'intéressent là-dedans.
Oui.
Mais
bien
le truc, en fait, c'est que le jour où moi j'ai envie de jouer avec quelqu'un à un même jeu, c'est pas sur Epic Game Store que j'y vais, c'est sur Steam, parce que rien que l'expérience en ligne, moi je vais te donner un exemple tout con, mais mon frère a la copie gratos Epic Game Store de Civ 6. On a voulu jouer ensemble en cross-platform, puisque moi j'y joue sur Steam. C'était infect. Et quelque chose me dit que c'était pas forcément à cause de Steam. Donc du coup, c'est... C'est toujours très chiant parce que tu te dis bon bah moi j'aimerais bien jouer avec lui, sauf qu'en fait nos bibliothèques ne sont pas similaires, et en plus lui il a plutôt des jeux sur Epic Game Store et moi j'ai plutôt des jeux sur Steam, tu vois. Et donc du coup la question elle est simple, c'est avec qui je peux jouer et sur quelle plateforme. Et en l'occurrence, si tout le monde est sur Steam, c'est peut-être parce que Steam ça roule bien. Et aussi parce que pour l'instant, les gens n'ont pas encore pris l'habitude d'acheter vraiment leurs jeux chez Epic Game Store. En dehors des exclusivités, comme tu le dis, souvent t'as des exclusivités d'alpha, des exclusivités de bêta, des exclusivités pendant 6 mois. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour faire en sorte que massivement les gens investissent le store d'Epic Games et du coup fassent en sorte que l'environnement qu'ils proposent soit vertueux et qu'on sorte pour eux des millions de pertes. Pour l'instant, c'est compliqué. Parce que autant ils arrivent à faire quelque chose, mais d'un point de vue simplement structurel et d'un point de vue communautaire, comme tu le dis, ça manque complètement de... Enfin, ça rate le coche de ouf, quoi.
Bah, moi, je suis désolé, quand je vois des clients de l'Epic Game Store qui vont sur les forums de Steam, parce que sur Epic Games Store, il n'y a pas de forum où les développeurs peuvent répondre aux questions des gens.
Ouais.
Que je te dise quoi, moi, c'est qu'un problème.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, bon courage pour être rentable d'ici 2023, mais s'ils font pas de gros efforts sur l'aspect technique, rien de leur store, l'aspect fonctionnalité même de leur store, et puis l'aspect communautaire, tu risques pas d'attirer les foules et de faire en sorte que la mayonnaise prenne pour que les gens achètent véritablement des choses chez toi, quoi. L'exemple est simple, mais tu vois, Hades, moi j'y ai pas joué pendant sa période de bêta parce que c'était sur Epic Game Store, et je suis très content d'y avoir joué à partir de sa sortie sur Switch, qui est d'ailleurs quasiment au même moment que sa sortie sur Steam. Mais du coup, tu vois, je n'ai jamais ressenti le besoin d'aller acheter quelque chose chez Epic Game Store juste parce que eux, ils avaient allongé le carnet de chèques pour faire en sorte que j'aille acheter chez eux.
Bah, le problème d'Epic, si tu veux, avec cette stratégie, c'est qu'on est à une époque où il y a déjà trop de jeux. C'est ça le truc, c'est que à part si tu tapes dans une niche où il y a un jeu qui est extrêmement attendu et du coup tu sais que tu vas faire ton chiffre là-dessus. Mmh. Et ils ont eu le nez creux parfois, hein. Je pense notamment à Rocket League ou ce genre de choses, où ils sont sûrs que les gens ils vont venir, hein, sur l'Epic Game Store pour continuer à jouer au jeu. Y a tellement de jeux sur le marché, franchement, il est pas disponible sur Steam. Ouais, bon, j'y jouerai plus tard, c'est pas grave. De toute façon, tu vois là, il y a 4 milliards de jeux auxquels je dois jouer là en ce moment, et je te parle même pas de mon back catalogue, hein, donc... Voilà. Ouais.
Bon, bah écoute, on verra bien. De toute façon, on leur souhaite d'être rentables, mais au bout d'un moment, en fait, ça.
On n'a pas de quoi que ce soit gagné à ce qu'ils ne réussissent pas, en fait. Hein.
Donc, exactement. C'est clair. Il vaut mieux pour eux qu'ils réussissent, et il vaut mieux aussi pour la concurrence et au bout du compte pour le consommateur qu'ils réussissent. Mais le truc, c'est que ça ne passera pas sans effort de leur part, et des efforts conscients et des efforts importants d'amélioration de leur service. Ok, passons à la suite avec Sony. Sony, on parle pas mal des coulisses de Sony en ce moment, puisque il y a un certain nombre d'informations qui filtrent. Alors la semaine dernière, c'était au sujet de Japan Studio. Cette semaine, c'est un peu plus global, parce que la semaine dernière, on vous parlait surtout du fait que Sony était vraiment devenue une boîte très très occidentalisée. Sur sa partie gaming, sa partie de développement de jeu. Mais on se rend compte maintenant, cette semaine notamment avec la sortie d'une enquête de Bloomberg, que les studios de développement occidentaux ont également des soucis sur la ligne éditoriale notamment de Sony et des jeux PlayStation. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le point là-dessus, Thierry?
Alors, pour résumer, Sony a une obsession pour les gros studios, en fait. Enfin, c'est-à-dire que Sony favorise ses gros studios et les autres studios commencent à en avoir marre. On le voit notamment avec Visual Arts, qui est un des studios de support de Sony. C'est notamment, tu sais, le studio qui s'occupe de chiader un peu tout ce qui est les animations, quand il y a des assets qui doivent être produits, etc. C'est les gars qu'il faut aller voir chez Sony, en gros, quoi. Mm-hmm. Et Visual Arts, à un moment donné, les pontes du studio ont voulu constituer une équipe de 30 personnes pour faire un remake du premier The Last of Us. Alors, au départ, ils voulaient pas faire un remake du premier The Last of Us, c'était un remake du premier Uncharted qu'ils voulaient faire, mais ils se sont rendus compte que ça coûterait trop d'argent, etc., donc ils sont plutôt partis sur The Last of Us, qui était un peu plus moderne que le premier Uncharted en termes de tout ce qui est gameplay, etc.
D'accord, voilà. Ok.
Ce qui s'est passé, je vais pas vous décrire tout ce qu'il y a marqué dans l'article, ça n'a aucun intérêt, de toute façon, vous allez aller le lire, hein, voilà. Mais en gros, pour résumer... Sony a autorisé plus ou moins le projet, ils les ont plus ou moins laissés dans le flou, puis ils les ont baladés d'un projet à l'autre en leur disant d'aller faire des trucs à droite et à gauche, etc. Et puis à un moment donné, quand les développeurs de Naughty Dog ont pu se libérer parce qu'ils avaient fini The Last of Us 2, il s'est passé une chose. C'est que, en gros, Sony a refilé le projet à Naughty Dog. Mais ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'au départ, officiellement, c'était Visual Arts qui était lead sur le projet. Sauf qu'à partir du moment où Naughty Dog est arrivé dans la place, ben, en fait, progressivement, les employés de Visual Arts se sont rendus compte que, ben, c'est Naughty Dog qui dirigeait la barque, quoi. Qu'ils avaient rien à dire sur le sujet, quoi. Et qu'ils n'avaient pas le soutien de la hiérarchie pour imposer leur patte sur leur projet. En gros, ils étaient revenus dans leur position initiale, qui est celle de studio de support, quoi.
Mm.
Ce qui fait chier quand tu as passé des mois à bosser sur un projet, et d'un seul coup, on te dit, bah non, en fait, c'est Naughty Dog. En fait, d'ailleurs, on te le dit même pas, on te fait comprendre que c'est Naughty Dog qui, à partir de maintenant, va être lead sur le projet et ferme ta gueule, quoi. Voilà.
Ouais, c'est chiant.
Donc, ce qui s'est passé à la suite de ça, c'est que tout simplement, t'as une partie. Des employés de Visual Arts qui se sont barrés. En tout cas, sur les 30 personnes qui étaient sur le projet, pas mal se sont barrés, notamment les patrons du studio. Voilà.
D'accord.
Mais ça ne s'arrête pas là, puisque on a appris cette semaine que Bend Studio voulait bosser sur un Days Gone 2,
mm-hmm.
et que Sony leur a dit non. Et non seulement ils leur ont dit non, mais au départ, ils leur ont imposé d'aller aider Naughty Dog sur la version multijoueur de The Last of Us 2. C'est-à-dire qu'ils les ont totalement dépouillés de leur projet et ils les ont remis à leur place parce que Bend Studio, encore une fois, c'est aussi un studio qui fait du support à la base. Et ils l'ont aussi dit, bah, écoutez, vous allez aider Naughty Dog sur son projet. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, bah, pareil, rebelote. T'as plusieurs membres du staff, dont des membres assez haut placés, qui se sont barrés de chez Sony. Et du coup, ce qui s'est passé quand même, alors il y a une fin un peu plus heureuse dans le cas de Bend Studio, c'est que ceux qui sont restés ayant peur de se faire bouffer par Naughty Dog, parce qu'en gros, c'est ça qui allait se passer, quoi, c'est que ils ont visiblement le sentiment que Sony mise tout sur ses gros studios, et que du coup, eux, comme ils sont affectés à la corvée, les préposés de corvée vis-à-vis de Naughty Dog, bah, en gros, ils allaient se faire manger par Naughty Dog, et puis ils feraient jamais autre chose, quoi. Du coup, les employés, ayant peur de ça, ont demandé à bosser sur autre chose et à être retiré du projet. Donc apparemment, ils ont obtenu satisfaction, mais ça montre quand même qu'il y a une ambiance, en tout cas, une ligne éditoriale chez Sony qui est tout pour les gros studios, quoi. C'est vraiment ça le truc, c'est que on a des studios stars qui marchent, et du coup, en replaçant en contexte ce qu'on disait la semaine dernière, sur Sony Japan, bah on comprend pourquoi Sony Japan a plus sa place. Parce que pour le coup, c'est un studio qui intéresse pas Sony, tu vois, t'as plein... Non seulement ils faisaient du support, mais en plus, ils avaient 3 milliards de petits projets à la con, ça intéresse pas Sony maintenant. Ce qu'ils veulent, c'est des studios qui bossent sur des gros projets avec des équipes qui ont déjà fait leur preuve, en fait. Et ça les intéresse pas d'expérimenter avec de nouvelles équipes qui ont pas encore fait leur preuve.
Visiblement. Mais ce qui est fou, en fait, c'est que sur l'histoire du projet de remake, là, bon, j'ai pas spécialement envie de discuter de l'intérêt de ce remake, mais en l'occurrence, le projet, il vient pas de Naughty Dog, il vient de chez quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, on lui dit, vas-y, go. Donc, ce quelqu'un d'autre, a priori, il est lead sur le projet, tu vois. Mais si c'est pas le cas, il faut le dire, tu vois. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment genre... non, mais au final, ça nous intéresse pas ce que tu fais. C'est plutôt les autres qui vont gérer ça. En fait, t'as vraiment l'impression de... que ce qui se passe, c'est des mecs dans un bureau qui regardent des chiffres, qui regardent des lignes de papier, et puis qui se disent « Ouais, non, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. » Et ça nie complètement la réalité humaine du truc, tu vois. C'est assez flippant de te dire que la ligne éditoriale de Sony, maintenant, c'est ça, quoi. Autant on pouvait éventuellement trouver éventuellement des avocats du diable sur la question de Sony Japan, mais là, en l'occurrence, si c'est vraiment un petit peu plus généralisé que ça, c'est assez
surtout
flippant,
que
quoi.
Là, on parle quand même d'un remake de The Last of Us, quoi. Franchement, dans le genre projet zéro risque, ça se pose là, quoi. Enfin,
c'est clair.
LKBD le dit dans le chat, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout d'un remake du premier The Last of Us, quoi. Enfin, déjà de base, quoi. Mais, admettons, tu vois, les gars, ils se sont rendus compte que, et encore, ils ont eu raison, hein, parce que, juste pour vous donner un peu de contexte, je rappelle, donc, ils ont annulé, ils ont switché du premier Uncharted à The Last of Us parce que c'était trop cher. Mais il faut savoir que quand ils ont commencé à montrer ce qu'ils avaient fait comme vertical slice sur The Last of Us, le nouveau patron des studios, qui est l'ancien patron de Guerrilla, en fait, leur a dit « Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça coûte aussi cher, quoi ?» Alors que déjà, tu vois, donc ça veut dire heureusement qu'ils sont arrêtés, parce que visiblement, le projet de remake du premier Uncharted aurait coûté encore plus cher. Donc heureusement qu'ils sont arrêtés là, parce que là déjà, s'ils trouvent que pour The Last of Us c'est trop cher, t'imagines pour un jeu qui date de Mathusalem comme le premier Uncharted, quoi. Parce que là, pour le coup, ce qui posait problème, c'est que évidemment il devait passer sur un nouveau moteur, il y a des mécaniques de gameplay qu'il faut complètement revoir parce qu'on fait plus tout à fait comme la même chose aujourd'hui. Ça demande du temps, tu vois, ça demande des ressources. Et Sony, même pour un projet avec aussi peu de risques, ne veut pas le confier à un studio comme celui-là, et surtout ne veut pas que ça coûte trop cher. J'hallucine, quoi.
Ouais. Moi, ce qui m'embête aussi, c'est que t'as l'impression que maintenant, en fait, tout est fait pour les gros studios, mais au bout d'un moment, en fait, tu fais grossir les studios, c'est bien, sauf que c'est des studios qui vont faire, allez, deux projets max en même temps. Donc, ce qui veut dire que à terme, la production d'exclusivité Sony, elle va vraiment, vraiment se réduire, quoi.
Non, mais parce que vous vous rendez compte que ça veut dire que là, Naughty Dog bosse sur un remake, hein. C'est ça que ça veut dire, en fait. La news, en fait, quoi. Concrètement, au final.
Ouais, c'est triste, en vrai.
Est-ce que, franchement, il n'aurait pas mieux valu laisser l'équipe d'origine sur le projet, leur accorder des moyens pour qu'ils embauchent des gens, qu'ils fassent leur putain de remake, et que derrière, Naughty Dog bosse sur autre chose, bordel.
Ouais, parce que là, ça veut dire que... Alors, bon, c'est probablement pas l'intégralité de la force de développement de Naughty Dog qui bosse sur le remake, mais c'est quand même une portion importante, enfin, une portion qui est existante de leur effectif. C'est quand même un petit peu dommage de se dire que le travail qui peut très bien être fait par quelqu'un d'autre est fait par la team numéro 1, je pense qu'on peut le dire, chez Sony, alors que t'aurais donné ça chez Bluepoint Games, t'as donné ça chez Visual Arts, tu vois, c'est pas ce qu'on dit. On dit pas qu'ils sont si peu nombreux, ils sont très nombreux chez Naughty Dog. Le truc, c'est que c'est toute la
force...
Ces gens
très nombreux, ils auraient pu bosser sur quelque chose de plus intéressant qu'un projet de remake, c'est ça qu'on dit.
C'est
quoi.
L'histoire. Je te dis pas que l'équipe de développement de ce remake, elle est importante, mais c'est quand même une portion qui existe et qui pourrait très bien être utilisée ailleurs sur le développement d'un futur AAA, qui est probablement déjà en cours, d'ailleurs. Mais c'est le fait qu'ils doivent... qu'ils se soient dit, attends, on va utiliser quand même de nos moyens à nous pour développer un remake, c'est quand même pas très intéressant pour cette équipe-là, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, moi, à leur place, j'aurais plutôt laissé ça aux autres, sauf si, éventuellement... Ils étaient pas du tout contents par ce qui avait été produit. Ça on n'en sait rien.
Je précise que dans les gens qui ont rejoint le projet, il y a déjà des gens qui ont bossé sur Uncharted. Alors on peut dire, oui, c'est bien, parce qu'ils connaissent la licence, etc. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, ils en ont pas plein le cul aussi de faire du Uncharted, quoi? Parce qu'ils en sont à quatre, là, quand même, quoi. Et du coup, maintenant, ils vont recommencer, repartir au début et refaire un jeu. Enfin, c'est... Voilà, ouais. Bon. Mais écoute, moi, je trouve ça... ça me laisse dubitatif, à la fois du point de vue de la ligne éditoriale de Sony, mais aussi du point de vue de comment ils traitent leurs employés. Parce que là, ils perdent des cadres de leur studio, en plus. Et juste parce qu'ils leur font pas confiance, quoi, en fait.
Ouais.
Voilà.
Ok. Bon, bah, on en reparlera si on a d'autres nouvelles à ce sujet.
Alors, AKBD, j'ai pas entendu parler d'une rumeur sur un nouveau Uncharted, mais peut-être que la rumeur, c'était... sur le projet justement d'Uncharted qu'ils avaient à la base. Hein. C'était peut-être ça. Hein. Donc voilà.
C'est possible. C'est possible. Passons à la dernière news de cette semaine. Alors c'est une news, c'est pas vraiment une news, mais c'est on va se faire l'écho d'une grosse enquête collégiale qui a été diligentée à la fois par Gamekult et Libération sur, vous l'aurez deviné, les conditions... dans l'industrie du jeu vidéo et on a beaucoup parlé notamment de crunch chez certains studios et dans l'industrie en général du jeu vidéo, mais là en fait ce qui est intéressant avec cette enquête, c'est qu'elle traite notamment des problématiques de crunch dans les écoles même de jeux vidéo, parce que vous le savez, en France notamment, il y a beaucoup d'écoles qui forment au métier du jeu vidéo, et certaines de ces écoles sont pointées du doigt, notamment dans cette enquête qui est une
alors,
enquête
précise,
fleuve.
Nous on a lu que le papier de Gamekult, on n'a pas lu le papier de Libération qui a priori est différent de celui de Gamekult, hein. Une précision très importante.
Précision très importante, et précision également que c'est une enquête fleuve produite en trois parties chez Gamekult en tout cas, avec une première partie sur la culture du crunch, une deuxième partie sur la broculture, donc les problèmes de sexisme dans les écoles de jeux vidéo, et un troisième sur autre chose, la précarité je crois, qui n'est pas encore sortie. Le volet 2, on n'a pas encore eu l'occasion de le lire, donc on n'en parlera pas cette semaine. On va surtout se concentrer sur les problématiques de crunch. Ce qui est intéressant, en fait, dans cet article très long de Gamekult qu'on a lu tous les deux, c'est notamment le fait que on se rend compte qu'il y a une espèce de système de cercle vicieux qui se met en place, notamment dans ces écoles, parce que on le sait, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est une réalité, il y a du crunch chez certains studios de développement, mais bon, dans beaucoup de studios de développement, et dans les écoles de jeux vidéo, il y a des problématiques de crunch, et elles viennent notamment de la direction, mais aussi de certains enseignants qui viennent de l'industrie du jeu vidéo et qui forment entre guillemets leurs élèves à au fait que ça soit normal de cruncher. Il y a aussi le fait que ce sont des étudiants qui souvent sortent du lycée qui, rappelons-le, payent leurs études souvent jusqu'à 9 500 € par an sur une période de 3 à 5 ans. Et qui croule très très vite sous la pression, sous les devoirs à faire, sous les projets à rendre, et le fait que il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses qu'on leur demande de faire, et il y a même tellement de choses qu'on s'attend à ce qu'ils fassent sans même leur donner le boulot, que très vite ils se mettent à mettre leur santé en danger. En faisant des nuits blanches, en travaillant des journées incroyables, en allant même jusque sur le campus de l'école pour travailler en dehors des horaires de cours, jusqu'à même le week-end.
En se droguant aussi, hein. Je vous dis non pas ça.
En se droguant également, et on arrive vraiment à une situation de misère psychologique, avec, on parle quand même de tentatives de suicide, on parle de choses comme ça, quoi. Donc de dépression, des burn-out, ce sont des réalités qui sont tellement présentes que chez certaines écoles, on a quand même des cellules psychologiques, une hotline qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les étudiants qui seraient en difficulté, les aider d'un point de vue psychologique. Donc c'est voilà, c'est tellement une réalité que des écoles ont ce genre de possibilités là, quoi. Donc c'est assez dingue, en fait. Moi j'ai lu ça, c'est un article qui est très long, mais bon, c'est à la fois peu surprenant voilà, on se dit bon, oui, c'est, j'ai envie de dire, c'est,
je veux dire, si ça existe dans l'industrie, il y a pas de raison que ça existe, voilà, pas dans les écoles qui forment les gens pour cette industrie là.
Mais je vous assure qu'à lire, c'est très impressionnant. Et moi, il y a certains trucs qui m'ont un peu ramené à mes études, à moi aussi, tu vois. Mais d'une certaine manière, je sais plus qui y a quelqu'un qui le dit notamment dans cette enquête, c'est que c'est assez globalisé à l'enseignement supérieur en général. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment lié à l'industrie. Et t'as l'impression que l'industrie ça existe, mais en plus de ça, ça va être impossible de le changer si en plus tu formes les nouveaux à faire pareil. Du coup, c'est compliqué, quoi.
Alors, moi, je voudrais apporter une précision. Il n'y a pas que des profs, tu sais, qui apportent leur la culture d'une crunch. Il y a des profs même qui ne pensent pas du tout à ça. Le problème, c'est que moi, ce qui m'a frappé dans cet article, c'est que putain, pour des écoles où tu payes 9000 balles par an, qu'est-ce que ça a l'air pas organisé du tout, quoi.
Ouais.
Parce que moi, quand je lis que, ah oui, cette année, on a une révélation, on va mettre en place un outil pour voir les tâches que les profs ont données aux élèves, et comme ça, si on leur a donné trop de tâches, eh ben, à ce moment-là, on va pas charger la barque. Putain, mais rappelez-moi, on vous paye combien par an pour que vous ayez des notions de base pédagogie, quoi.
Ouais, et puis en management,
je suis pas enseignant, mais pour moi c'est la base, quoi, tu vois, que les enseignants ils se consultent entre eux et qu'ils discutent de qu'est-ce qu'ils vont donner comme devoir aux élèves, et que là j'ai un peu chargé la barque, donc si tu pouvais te calmer un peu de ton côté, et puis on inversera le trimestre suivant, enfin tu vois, enfin s'organiser un peu, quoi, discuter entre profs.
Et puis s'organiser aussi sur les dates de rendu, parce que visiblement, enfin vous avez tous vécu ça, hein, dans votre scolarité, où les profs ont besoin de notes parce que le trimestre se termine et que du coup ils ont pas assez de notes, bref. Et donc là, en l'occurrence, c'est pareil, t'as tous les rendus qui se cumulent au même moment, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, comment tu peux gérer ça, toi, en tant qu'étudiant? Donc c'est compliqué de ce point de vue là et Akenaïs le dit bien dans le chat. Effectivement, c'est pas vraiment des enseignants qui donnent cours, c'est des professionnels. Tu fais bien de me le...
Alors. Je peux le préciser parce que il se trouve que bon, il fut une époque, j'envisageais éventuellement de faire du jeu vidéo. Putain, la meilleure idée de ma vie de ne surtout pas faire ça, en fait. il se trouve que j'ai des amis qui travaillent en jeu vidéo, et je précise, je ne parle pas de notre chère Mamie Lamy, n'est-ce pas? Une précision. Donc, moi, j'ai quand même, tu sais, envoyé ma sonde et je suis allé me renseigner. Et il se trouve que parmi mes contacts, il y a des gens qui sont allés bosser dans ces écoles-là. Et moi, ce que j'apprends, c'est que même les profs ont une extrême mauvaise opinion de ces écoles. Parce que, en l'occurrence, ils sont complètement délaissés par les directions. Ouais. Et en plus, moi, un truc qui m'a scié, c'est un exemple qu'on m'a donné, où les gars arrivent dans une classe pour enseigner des notions de code qui sont quand même assez avancées, ou quand même faut déjà avoir un niveau de base, tu vois, pour arriver à t'en sortir. Et les élèves qui sont en phase 2 n'ont jamais codé de leur vie.
Putain.
What the fuck?
Ouais.
Parce que, je veux dire, quand tu... Ces écoles, elles recrutent comment, en fait, leurs élèves? Parce que, certes, il faut payer, ça, je comprends bien que tu payes, mais tu regardes juste le carnet chèque, tu vérifies pas le niveau des élèves avant de les accepter? Ça se passe comment, là? Comment un élève qui n'a pas le niveau pour coder peut se retrouver en face d'un prof sur un qui va enseigner des notions qui sont avancées dans le domaine? Comment ça se passe comme ça, quoi?
Ouais. Bah ouais, non, mais ouais, ça,
aller
c'est
au 42,
c'est fou.
Oui, la fameuse école, aller à Epita, Epitech aussi. Parce que là, je précise, c'est pas nouveau, hein. Moi, ce que j'ai lu là, ça me surprend pas. C'est exactement ce qui se passe à Epita, Epitech, enfin, Les gars, ils sont dans la piscine, ils appellent ça, ils arrêtent pas de bosser comme des bêtes, et on glorifie ça, tu vois. Enfin, là, je parle vraiment en termes, tu sais, de charge de travail. Hein. Je parle pas forcément en termes de tous les problèmes qui sont décrits là, mais en termes de charge de travail, même dans les écoles d'info classiques, on va dire, t'as une espèce de glorification du travail à outrance, alors que, franchement, moi, ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Je le dis, mais franchement, en le pensant très sincèrement, hein, ça n'est absolument pas productif d'avoir des gens qui se tuent au travail. Ouais. Tu n'apprends rien comme ça. C'est la pire méthode d'apprentissage que tu peux imaginer.
Donc, oui, et puis c'est même pas de l'apprentissage, en fait.
Oui, c'est... démerde-toi. Voilà, ça c'est nouveau. C'est ça. Démerde-toi. Allez, hop.
C'est en fait ce que je trouve scandaleux, c'est que déjà c'est particulièrement scandaleux de mettre en place du crunch dans une entreprise. Mais c'est d'autant plus scandaleux d'inculquer ça dans le crâne d'étudiants et de gens qui viennent là pour apprendre. Parce que il y a quand même une différence entre pour moi l'enseignement, et souvent d'ailleurs c'est une des problématiques dans l'enseignement général, c'est que souvent l'enseignement il doit être fait sur le temps long. Tu peux pas te permettre de dire bon voilà, je te fais un cours de 2 heures, demain tu me rends un truc, et c'est quelque chose qui d'ailleurs est dont on parle hein, dans cette enquête. Demain tu me rends un truc parce que t'as compris. Non. L'objectif, c'est que moi j'intègre ce que tu viens d'essayer de me prendre, et que sur ce temps-là, je puisse réviser, je puisse mettre en pratique ce genre de choses, tu vois. Et le fait même de te forcer à t'exténuer à la tâche parce que t'as trop de trucs à faire, mais comment veux-tu te souvenir des choses que t'es censé avoir appris? C'est juste pas possible, quoi. Donc c'est, en fait, moi ça. D'un côté, j'ai envie de te dire, ça me surprend pas. D'un autre côté, c'est pas suffisant de te dire, oui, c'est pas surprenant. Au bout d'un moment, en fait.
Oui, mais c'est pas surprenant, mais honnêtement, je disais ça à LKBD qui est dans le chat l'autre jour. Certes, c'est pas surprenant, mais quand tu vois le nombre de mômes qui cherchent à rentrer dans ces écoles.
C'est ça.
Parce qu'il faut pas se leurrer. Si ces écoles, elles ont fleuri ces dernières années. Parce que là, justement, quand je discutais avec mes contacts, il y a plein de noms d'écoles qu'ils avaient jamais entendu, dont ils avaient jamais entendu parler à l'époque où ils sont rentrés. Donc ça signifie quand même que t'avais quand même plein de nouveaux établissements, tu vois, qui sont lancés depuis. Donc, quand tu te dis ça, ça veut dire qu'il y a plein de mômes qui cherchent à rentrer là-dedans. Et moi, je trouve que c'est important que t'aies des sites comme Gamekult et d'autres. Qui montrent à ces mômes-là que, attention, Et regarde là, regarde, ça c'est l'école de jeux vidéo dans laquelle tu voulais rentrer. Regarde, tu vas payer 9000 balles pour ça. Est-ce que tu es sûr de vouloir payer 9000 euros pour ça? Est-ce que tu es sûr de vouloir endetter tes parents, ou t'endetter toi-même d'ailleurs, pour rentrer dans une école comme ça?
Ouais. Ça c'est vrai que c'est très bien, c'est une vraie mission du journalisme, de toute façon, de pointer du doigt ce genre de dysfonctionnement. Maintenant, si la vraie problématique, c'est si tu veux toujours y aller, qu'est-ce que tu fais, quoi? Elle est où la bonne il est où le bon élève d'un point de vue école de jeux vidéo? C'est ça le problème. Il y a une autre problématique qui est très on va dire ancrée dans le fait que ce sont des écoles privées, et que à partir du moment où t'as donné ton premier chèque pour ta première année, c'est trop tard, tu vois. Il faut que tu continues, parce que sinon t'as payé pour rien, tu vois. Et ça participe aussi du fait que en tant qu'étudiant, tu dois te sentir vraiment extrêmement bloqué, parce que c'est probablement une situation de merde que t'es en train de vivre, ce crunch, mais en plus de ça, tu sais que ton échappatoire, elle est que dans 3 ans, ou dans 5 ans. Comment veux-tu t'en sortir psychologiquement?
Et encore, ton échappatoire, rien ne dit qu'à la sortie, tu auras un boulot. C'est ça aussi qui fait que les étudiants ont la pression, c'est qu'ils savent qu'à la sortie, sur le marché français en tout cas, Il y en a qui s'exportent au Canada, mais pas tout le monde. Et tout le monde n'a pas forcément envie d'aller au Canada.
Oui,
tu sais que les places sont chères. Et donc, il vaut mieux en plus bien t'entendre avec tes profs qui sont ceux qui vont te donner les contacts pour pouvoir entrer dans cette industrie. Parce que sinon, t'es grillé déjà avant même d'être entré. Si t'as ton prof qui bosse dans tel ou tel studio, il dit « Ouais, lui, non, mais laisse tomber, il est pas bon, ou machin, c'est un branleur, machin. » Alors que si ça se trouve, c'est même pas de ta faute parce qu'on t'a donné des trucs et que juste à un moment donné, tu peux plus, quoi. Ben, voilà, c'est une voie sans issue pour moi.
Enfin... Ouais. J'avais déjà une opinion très tranchée sur les écoles privées et payantes. Je t'avoue que ce papier n'a fait que les confirmer. Ouais, c'est assez hallucinant, ce business-là, je trouve. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter là-dessus?
Non, bah écoutez, voilà, n'y allez pas, c'est tout.
Ouais, bah surtout faites attention à vous, c'est particulièrement si vous êtes dans ce genre d'établissement, faites attention à, enfin voilà, vous essayez de discuter, surtout si vous êtes dans une situation complexe, faites attention à vous, quoi. Ok, et bien c'est la fin de notre podcast numéro 372, j'ai envie de te dire.
Déjà.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 373 et faire le point de l'actualité vidéoludique plus tard.
Alors, on vous confirmera ça la semaine prochaine, mais a priori, après le podcast de la semaine prochaine, il y aura une petite pause. Donc, voilà, que vous soyez prévenus.
Oui, une petite pause d'un week-end, on verra quand est-ce qu'on reviendra, mais c'est prévu.
On vous redit ça. Allez.
Ouais, mais d'ici là, bah évidemment, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis surtout jouez bien.
Des bisous.
Salut.